Alors, on est en train de vous distribuer trois pages avec un certain nombre de citations de la lettre encyclique du pape Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui est tout à fait récente, puisqu'elle a été promulguée par notre Saint-Père le 29 juin 2009. Et voilà, donc, évidemment, cette conférence ainsi que celle de cet après-midi n'a pour but que de vous donner quelques clés de lecture, mais évidemment, elle ne vous dispense pas de la lecture de ce texte qui est tout à fait dense et qui reprend, donc à partir de la thématique du développement, du progrès, qui reprend au fond les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église que je vais rapidement vous présenter. L'Église, dans son enseignement, ce qu'on appelle son magistère, a pour but de vous éclairer, vous laïcs, de vous donner les grands principes. Mais quant à savoir comment après incarner ces principes et les appliquer dans les situations très concrètes où vous êtes, situation professionnelle, situation sociale, situation familiale eh bien évidemment, là, si je puis dire, personne ne peut faire le travail à votre place. C'est le propre du Saint-Esprit de vous inspirer ce qu'il faut faire à partir des grands principes qui vous sont prodigués par l'Église. Il y a donc tout un travail de réflexion personnelle à faire, et puis il y a aussi la confiance dans le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'avons invoqué en commençant ce week-end, puisque c'est le Saint-Esprit qui, selon la promesse de Jésus, nous conduit à la vérité tout entière et qui nous apprend à agir comme le Christ agit, en tant que disciple du Christ. Mais il n'empêche qu'il faut faire ce travail de réflexion, de formation, qui est de tout temps, puisque lorsque Jésus envoie ses disciples en mission au matin, au jour de l'Ascension, il leur dit bien enseigner et baptiser. Mais enseigner, ça veut dire que la première mission de l'Église, c'est d'éclairer les intelligences. Et cette lumière de l'intelligence, c'est justement la foi. La foi, c'est une lumière qui est donnée, une lumière surnaturelle qui est donnée à notre intelligence, afin que nous puissions, si je puis dire, comprendre les choses de Dieu. Alors, j'ai oublié de mettre le plan sur juste les textes. Donc voilà, essentiellement, je vais commencer par une petite introduction sur ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et puis après, il y aura deux grandes articulations. Trois grandes articulations. Oui, j'ai fait, comme tout bon exposé français, j'ai fait en 3 points. Donc le premier point, ce sera donc 40 ans après Populorum Progressio, dont je vais vous parler. Donc la thématique de vérité, justice et charité. Donc c'est une partie plus, on va dire, plus fondamentale, plus anthropologique. Deuxièmement, donc le développement humain aujourd'hui, évidemment dans un contexte. Donc cette encyclique qui a été annoncée longtemps avant sa publication a été retardée, ben, parce que vous voyez à quelle date elle a été publiée. On était en plein dans la crise financière et qui aboutit après à une crise économique et sociale, et donc, si je puis dire, non pas du tout que le Saint-Père voulait attendre de la fin de l'histoire, justement, il voulait vraiment. Il a remis à plusieurs fois cette encyclique pour pouvoir donner un enseignement le plus complet, le plus profond possible. Et puis enfin, une troisième partie à propos de la protection de l'environnement et l'unité de la famille humaine. Alors, ce qui est très, très étonnant dans cette encyclique, enfin, il y a deux choses qui sont marquantes, c'est que, à travers, en effet, cette problématique du développement, tous les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, de la conception chrétienne au fond de la vie en société, sont repris, hein, au moins de façon allusive. Donc c'est un texte qui est très dense. Et puis la deuxième chose, c'est que revient un petit peu comme un leitmotiv le fait de dire, bah oui, mais il ne suffit pas de connaître parfaitement les mécanismes de l'économie, de la finance, voire du développement, mais fondamentalement, ce qui manque aujourd'hui, et ce qui explique en partie la cause de la crise, qui n'est pas simplement une crise économique, mais qui est une crise de l'homme, et ça c'est dans ce qu'on appelle la crise de la modernité ou de la postmodernité, eh bien, on ne peut pas résoudre cette crise si on ne l'aborde pas dans toute sa profondeur, y compris dans sa profondeur anthropologique et théologique. Et ça, c'est un leitmotiv qui revient à tous les chapitres. J'ai pas fait un relevé, mais c'est voilà. Donc le travail que vous faites durant ce week-end, c'est pas simplement un travail à réfléchir à l'unité de votre vie, mais au fond, comment peut-on aujourd'hui résoudre les problèmes d'une manière qui soit à la fois réaliste, mais aussi qui soit fondamentale. Alors donc introduction, qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église ? Alors l'Église a une doctrine sociale, une conception de l'organisation de la vie en société, ce qui peut surprendre parce que nous savons que la première mission de l'Église, pour le dire de façon un petit peu rapide, c'est de nous enseigner les vérités de la foi et de nous donner les moyens surnaturels pour atteindre la vie éternelle. C'est donc à la fois, l'Église nous communique quoi ? Eh bien, elle nous communique tout à la fois, ou plutôt le Christ utilise l'Église, se sert de l'Église pour nous enseigner et pour nous communiquer le pardon de nos péchés et le don de la vie éternelle. Voilà quelle est la mission de l'Église. Cependant, ce salut, ce don que nous recevons de Dieu, nous le réalisons, nous y sommes fidèles à travers nos actions quotidiennes, et pas simplement à travers notre vie de prière ou notre vie sacramentelle, qui est l'aliment de notre action. Mais même si la messe dominicale est le sommet de notre semaine, il n'empêche que c'est une nourriture qui nous est donnée pour vivre en chrétien, pour vivre en fidélité à la parole du Christ et au commandement de Dieu tout au long de notre semaine. Le salut, il concerne des personnes très concrètes, il s'adresse à des personnes très concrètes qui sont engagées, qui sont incarnées dans la société, dans un cadre familial, dans une activité professionnelle, etc., etc., etc. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est très importante, c'est que, et ça, nous le savons par la foi, mais nous le savons aussi par la raison, c'est que l'homme est essentiellement un animal social. Pour se développer, pour développer en lui son humanité, il a besoin du contact avec les autres. Déjà Aristote notait que l'homme est un animal politique, tot zoon politikon, c'est-à-dire que, alors qu'il naît beaucoup plus démuni que tous les autres mammifères supérieurs, si vous mettez à côté un petit singe et un petit dôme qui vient de naître, c'est pas le petit dôme qui se débrouille le mieux, mais il est donc beaucoup plus fragile, beaucoup plus exposé, mais il a en lui cette potentialité, ces facultés spirituelles d'intelligence et de volonté qui font son originalité absolue dans tout l'univers créé. Mais justement, pour développer ces virtualités, qui sont pour lui des pures potentialités, donc d'intelligence et de volonté, il a besoin du contact avec les autres. Il a besoin d'abord du contact avec sa mère, avec ses parents, avec sa famille, et puis, petit à petit, si tout se passe bien, avec le reste de l'humanité, c'est-à-dire des communautés naturelles. Et puis, ce qui est vrai d'ailleurs du point de vue naturel, est vrai aussi du point de vue surnaturel. C'est-à-dire que, comme notre mode de fonctionnement est le même d'un point de vue naturel que d'un point de vue surnaturel, Dieu a voulu établir une communauté, une société que nous appelons l'Église, et c'est justement dans l'Église que la vie de foi, d'espérance et de charité que nous avons reçue au jour de notre baptême se développe, grandit et s'affermit. Or, qui dit vie en société, justement, dit vie sociale. Voilà pourquoi il y a aussi une doctrine sociale. Autrement dit, l'activité sociale, économique, politique n'est jamais neutre. Autrement dit, derrière, puisque nous nous adressons à des êtres libres, il y a toujours un projet de société. Derrière tout projet de société, donc le projet de la société, ça devrait être de permettre à ses membres de pouvoir grandir en humanité, de pouvoir parfaire leur humanité. Ça veut donc dire que, vous savez, pour apprendre le latin à Peter, il faut connaître le latin, mais il faut encore plus connaître Peter, il n'y a pas de développement neutre. Je veux dire par là qu'on a toujours lorsqu'on s'adresse, lorsqu'on fait œuvre d'éducation, voilà, parce que c'est ça, eh bien, on a toujours une conception de l'homme. Et au fond, les grandes idéologies du XXe siècle, que ce soit le nazisme, que ce soit le communisme, avaient une conception de l'homme, dramatiquement réduite et limitée, mais qui s'est révélée techniquement efficace. Je veux dire, efficace pour notre plus grand malheur. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas imaginer, on agit toujours avec une conception. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a toujours une idéologie derrière la tête. Et quand l'idéologie a épousé le progrès technique, elle a asservi le progrès technique, et le pape y revient, et ça fait des millions de morts. Je veux dire, l'homme de Cro-Magnon, imaginez que par exemple, il est déjà l'idéologie, je ne sais pas, nazie, bon, au pire, il allait défoncer le crâne de son voisin dans sa caverne, et puis ça s'arrêtait là, on pouvait le maîtriser. Avec le progrès scientifique, c'est bien différent, c'est-à-dire qu'on a planifié la disparition, la mort, le génocide de populations entières au nom d'une idéologie et parce qu'on avait les moyens techniques pour le réaliser. Et ça, c'est très important de découvrir justement ce comme quoi le progrès scientifique est neutre, les miracles techniques et scientifiques sont neutres, tout dépend de l'usage qu'on peut en faire. Alors la révélation chrétienne nous révèle donc dans un second temps qui est l'homme. L'objet de la révélation, c'est-à-dire qui est Dieu, quel est le salut qui nous communique. Mais du même coup, si je découvre que Dieu m'aime, qu'il met tout en œuvre pour me sauver, eh bien, et surtout que dans le christianisme nous croyons au mystère du Dieu qui se fait homme, le mystère de l'incarnation, eh bien évidemment ça va apporter sur l'humanité, sur la vocation de l'homme, comme une lumière toute spéciale. L'homme a vocation à être sauvé par Dieu, par le mystère de l'incarnation. Et autrement dit, on ne peut pas faire l'économie de cette révélation. Autrement dit, on ne peut pas non plus réfléchir à l'homme si on ne tient pas compte du fait qu'il est appelé au salut et à partager la vie même de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui change aussi beaucoup notre regard sur les autres. C'est ça qui nous permet de dépasser nos petites antipathies naturelles, c'est toujours de nous rappeler que celui qui est à mes côtés, donc mon prochain, par définition, est appelé, comme moi, à la vie surnaturelle. Qu'il est appelé à connaître Dieu et qu'il est appelé à l'éternité. Et ça, ça change encore une fois un petit peu le regard sur l'autre. Autrement dit, si on ne tient pas compte de cette révélation, eh bien, on enferme l'homme dans des structures, et on attend tout des structures et des organisations pour le sauver. Si l'horizon de l'homme paraît limité, eh bien, très vite, il y a une réaction, surtout chez ceux qui ont le pouvoir, qui sont assez souvent, je dirais, pleins de bonnes intentions, celles dont l'enfer est pavé, mais qui dit, moi je sais mieux quel est ton salut, ce qui est bon pour toi. Et ça aussi, c'est une... Toutes les idéologies, au fond, se présentent comme des moyens de salut sécularisé, on va dire. Il s'agit de faire le bonheur de l'homme, et il s'agit de réaliser son salut, même si c'est au prix de millions de morts. C'est ce que souligne le pape dans le numéro 11 de l'encyclique. Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais d'accord, mais c'est bien gentil tout ça. Mais ça ne vaut que pour les chrétiens. Ceux qui ne bénéficient pas de la révélation chrétienne, je ne vois pas pourquoi l'Église s'adresserait à eux. Or, depuis au moins le pape Jean XXIII, tous les documents qui concernent l'organisation de la vie en société, le développement, sont adressés donc évidemment aux évêques, aux prêtres, à tous les fidèles laïcs, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté. C'est une formule qui est maintenant employée par le magistère quand on donne un enseignement de portée générale sur l'organisation de la vie en société. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un principe fondamental de la morale chrétienne, c'est que tout ce que nous avançons à propos de la morale, c'est-à-dire de l'éducation de la liberté, eh bien est toujours justifiable en raison. Je veux dire par là que nous ne disons pas, ben voilà, il faut faire ça, mais c'est parce que Dieu le veut. Oui, on dira parce que Dieu le veut, mais pourquoi Dieu le veut ? parce que c'est bon pour nous. C'est ça qui contribue à notre développement, à nous faire grandir, à éduquer notre liberté. Voilà ce que je veux dire quand je dis que tout ce qui est avancé par la morale chrétienne, que ce soit dans le domaine de la famille, de l'organisation de la vie en société, de la vie politique, eh bien, est toujours justifiable en raison. Alors évidemment, pour nous chrétiens, parfois c'est plus facile de dire « Ah oui, vous comprenez, il faut faire ça parce que Dieu le veut. » C'est pas suffisant, encore une fois. Dieu le veut parce que c'est bon. Et donc il faut montrer, il faut faire fonctionner notre intelligence pour essayer de montrer pourquoi c'est bon. Pourquoi cela va dans le sens de la dignité de la personne humaine. Et voilà. Et ça, je crois que c'est un travail qui est difficile, surtout dans la contestation actuelle de l'enseignement de l'Église, qui est fatigant, parce que il faut réfléchir, c'est toujours fatigant, mais qui nous aide à nous enraciner aussi profondément notre foi. Autrement dit, la foi ne va jamais contre la raison. Pourquoi ? Eh bien parce que nous croyons que la création est issue aussi des mains de Dieu. Hein, qu'il n'y a pas le Dieu de la création ou le Dieu de la raison, et puis le Dieu de la révélation. Hein, c'est le même Dieu qui a créé toute chose, et qui a créé l'homme, et puis qui appelle cet homme au salut après le premier péché de nos parents, et cette prolifération du mal et l'apparition de la mort dans notre univers, et qui met tout en œuvre jusqu'à envoyer son propre fils pour nous sauver. Il y a toujours, même s'il faut distinguer les ordres, encore une fois, l'ordre de la création, ce qu'on appelle l'ordre naturel, n'est pas le même que l'ordre de la rédemption, surnaturel, mais évidemment ce ne sont pas non plus deux domaines qui s'excluent. Comme disait le philosophe Jacques Maritain, hein, il s'agit de distinguer, mais pour unir. Voilà. Ça, vous en avez une belle illustration, enfin je fais une petite... Hein, mais par exemple, à propos du mariage. Hein, le mariage, c'est une belle réalisation, mais c'est au confluent à la fois de l'ordre de la création, hein, puisque le mariage permet justement à cette création de se renouveler, hein, et qu'il a été voulu par Dieu dès l'origine, dès la création, il appartient à l'ordre de la création, mais aussi parce que c'est un sacrement, le mariage appartient à l'ordre surnaturel, hein, du salut et de la rédemption. Eh bien, il faut tenir compte, dans la vie du couple et dans la vie de la famille, des deux dimensions. Autrement dit, l'éthique chrétienne est toujours justifiable raisonnablement, donc tout ce que l'Église... C'est très simple, hein, vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, et puis vous prenez la partie morale, hein, la troisième partie, à savoir le commentaire des 10 commandements. Eh bien, encore une fois, tout ce qui est dit là, il n'y a pas besoin d'une révélation divine pour prouver que c'est ce qui est bon pour l'homme. Maintenant, là où on a besoin de la grâce, c'est-à-dire de l'aide de Dieu, de son aide surnaturelle, c'est pour l'accomplir. Parce que nous faisons tous l'expérience, enfin vous je ne sais pas, mais moi quotidiennement, hein, c'est que nous voyons assez bien ce qu'il faut faire, raisonnablement, et nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce que notre nature est blessée, et que notre volonté, c'est notre capacité d'agir, notre capacité d'engager notre liberté, est plus blessée encore par le péché que notre intelligence. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, et qu'il faut lui demander, très humblement, dans une prière confiante, la grâce de Dieu quotidiennement pour accomplir ses commandements, pour accomplir sa loi. C'est là où vraiment on a besoin d'un secours de Dieu. Alors l'Église, maintenant, ça c'est un petit peu les grands principes, si vous voulez, qu'est-ce qui légitime, hein, le discours de l'Église en matière sociale. Historiquement, bien entendu, l'Église est toujours intervenue en comptant sur la lente éducation et le développement progressif des consciences. Par exemple, ainsi de l'esclavage. On peut être surpris, il n'y a pas dans le Nouveau Testament, pour revenir à la source, hein, une grande déclaration contre l'esclavage. Et on sait très bien que l'esclavage s'est maintenu, y compris dans les toutes premières époques de la chrétienté. Mais ce qui a beaucoup changé, malgré tout, et c'est une sorte de bombe à retardement qu'il y avait dans l'Évangile, mais cette fois une bombe à retardement bénéfique, enfin d'ailleurs, tout ce qu'il y a dans l'Évangile, hein, c'est que, évidemment, si on découvre que, par exemple, si vous lisez le petit épître à Philémon de Saint Paul, un tout petit texte, un petit billet que Saint Paul envoie à un de ses amis, parce que ce Philémon avait un esclave qui s'est échappé, qui a rejoint Saint Paul, et Saint Paul en a fait un chrétien, l'a baptisé. Mais Saint Paul, respectueux de la loi de son époque, écrit à Philémon en disant, bah, écoute, il t'appartient, parce que c'était comme ça les lois de l'époque, donc je te le renvoie, mais rappelle-toi que désormais, c'est plus ton esclave, c'est ton frère. Donc, voilà, traite-le en conséquence. Bon. Il est évident qu'à partir de ce principe, petit à petit, même s'il a fallu beaucoup de temps, eh bien, l'Église en est arrivée à une condamnation très, très ferme de l'esclavage, hein, comme attentatoire à la dignité de la personne humaine. Un autre exemple, donc, je vous ai dit, je suis aumônier militaire, donc une question qui m'intéresse un petit peu, la notion de guerre juste. C'est aussi très progressivement que l'Église, sachant que, ben, voilà, tant que les hommes seront des hommes et marqués par le péché, ils se feront la guerre, bon, eh bien, ou bien on s'enferme dans sa tour d'ivoire, on dit « Ah, mais là, c'est affreux, je ne peux pas entendre parler de ça, mon Dieu hein, », ou alors on se dit « Bon, ben, dans cette situation de désordre, on essaye de mettre un tout petit peu d'ordre et de lumière et de réconfort ». Et l'Église a eu une action depuis le Moyen-Âge, très, là aussi très progressive, très lente, mais pour admettre ce qu'on appelle la loi de la guerre. C'est le fait de dire que ce n'est pas parce que c'est la guerre qu'on peut faire n'importe quoi. Et si vous regardez, par exemple, la Convention de Genève, c'est-à-dire les conventions internationales passées entre États qui se font la guerre, eh bien, vous vous rendez compte que la plupart des, même, on peut dire la quasi-totalité de ces éléments de doctrine, eh bien, sont issus, en fait, de la doctrine sociale de l'Église, de la conception de la guerre juste. On les place là. Ou par exemple, un autre exemple aussi, c'est à propos de l'éthique économique, hein, l'Église aussi qui a longtemps réfléchi à propos de l'usure, enfin, faire la distinction entre le prêt à intérêt, qui est juste, puisque évidemment, comme on immobilise de l'argent pendant un temps, eh bien, il est juste que quand on le retrouve avec un petit bénéfice, même si à l'époque, on avait peut-être, en tout cas au Moyen-Âge, on n'avait peut-être pas la notion comme aujourd'hui de l'inflation, hein, mais qu'on a différencié de l'usure. Hein, l'usure, c'est évidemment le fait de prêter de l'argent à un taux astronomique, et là, l'Église a toujours considéré que c'était du vol, etc., etc., etc. Mais historiquement, la doctrine sociale de l'Église, telle que nous la connaissons, est apparue avec l'industrialisation au XIXe siècle, avec aussi des nouvelles formes d'organisation politique, c'est-à-dire l'émergence des États, et ainsi que la misère prolétarienne, l'exode rural, et à la fois le libéralisme, c'est une sorte de développement économique sans frein, et puis son frère ennemi, évidemment, le marxisme, avec tout ce que ces idéologies, lorsqu'elles arrivent au pouvoir, représentent comme menace à propos de la famille, de la liberté, de la foi, etc. Et donc la première grand document sur ces questions-là, qui a été anticipé par l'action des chrétiens, vous avez peut-être entendu parler au XIXe siècle de ce qu'on appelait les catholiques sociaux, bon, c'était ça, des catholiques qui cherchaient à pallier les dérives et les dangers de la société industrielle, et qui a bien réussi en France. Hein. Vous savez, le gendre de Marx disait que si le marxisme n'avait pas pris en France, c'était à cause de ce qu'avaient fait les catholiques sociaux. Autrement dit, si vous êtes un peu habitué à lire, hein, si vous lisez La Condition ouvrière chez Zola, hein, et si vous la lisez chez Dickens, hein, donc vous voyez la différence. Hein, c'est pas, parce que l'écrit Zola, c'est quand même pas merveilleux, mais enfin, c'est quand même à 10 000 pieds au-dessus. Hein, la condition ouvrière telle que la décrit Zola est beaucoup plus respectueuse des personnes que ne l'est ce que décrit Dickens, hein, à la même époque en Angleterre. Et donc le premier grand document à propos de la doctrine sociale de l'Église, c'est le pape Léon XIII en 1891, donc, qui écrit la lettre encyclique Rerum Novarum, ou Rerum Novarum, à propos donc de la société industrielle et la possibilité qui est laissée aux ouvriers de pouvoir s'organiser, soit en corporation, soit en syndicat. Alors quel est maintenant le champ d'application et depuis, donc régulièrement, le pape, par des documents, les papes successifs, spécialement pour fêter l'anniversaire de Rerum Novarum, mais pas seulement, donc font le point, c'est toujours à partir des mêmes principes, mais évidemment les appliquent à des situations très différentes. Alors quel est le champ d'application de la doctrine sociale de l'Église? Eh bien je dirais c'est la vie politique, économique et sociale, l'organisation de la société, mais aussi la famille et la signification du travail humain, parce que, au fond, la première société primitive, si je puis dire, qui est même antécédente à tout État, c'est la famille. Et donc la société politique, ce n'est rien d'autre qu'une communauté de communautés, une communauté de familles. Comment intègre-t-on quelle est la grande activité qui permet à l'être humain de se socialiser? C'est d'une part l'éducation, voilà pourquoi aussi l'Église a tout un... Et puis une pratique aussi, une expérience à propos de l'éducation, mais pas simplement, il y a aussi le travail, le travail humain. C'est un point que, par exemple, à partir même la signification, qu'est-ce que c'est l'activité humaine? Et ça, c'est beaucoup Jean-Paul II qui a développé cette dimension-là. Mais aussi le respect de la vie, puisque dans un monde très... La société est d'abord, si je puis dire, défensive, elle est là pour protéger ses membres. Et voilà pourquoi aussi le respect de la vie a une grande importance dans la doctrine sociale de l'Église. Et puis enfin, les questions touchant la culture et l'environnement. La culture, parce que c'est ça, l'être humain est naturellement un être de culture. C'est par la culture qu'il développe son humanité. Et puis l'environnement, parce que Dieu a établi l'homme gardien de la création et que nous... Alors c'est une problématique auquel nous sommes particulièrement sensibles aujourd'hui et auquel répond le pape Benoît XVI, mais il est évident que nous découvrons que cette terre a aussi des richesses limitées. Et voilà. Alors vous voyez, donc l'Église ne propose pas des... L'Église, je veux dire, en tant que l'Église, en tant qu'enseignant, par sa hiérarchie, ne propose pas des solutions clés en main, mais des principes et des convictions. C'est justement le texte numéro 1, parce que comme je vous l'ai dit, le mieux c'est quand même de nous mettre à l'écoute de ce que nous dit l'Église. Donc c'est le premier texte, on a la doctrine sociale de l'Église au service de l'homme et de son développement. L'Église n'a pas de solution technique à offrir et ne prétend, citation du pape Paul VI, aucunement s'immiscer dans la politique des États. Elle a toutefois une mission de vérité à remplir, en tout temps et en toutes circonstances, en faveur d'une société à la mesure de l'homme, de sa dignité et de sa vocation. Sans vérité, alors ça c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, revient à de multiples endroits dans l'encyclique, sans vérité on aboutit à une vision empirique et sceptique de la vie, incapable de s'élever au-dessus de l'agir, car inattentive à saisir les valeurs, et parfois pas même le sens des choses, qui permettraient de la juger et de l'orienter. La fidélité à l'homme exige la fidélité à la vérité, qui seule est la garantie de la liberté et de la possibilité d'un développement humain intégral. C'est pour cela que l'Église la recherche, qu'elle l'annonce sans relâche et qu'elle la reconnaît partout où elle se manifeste. Cette mission de vérité est pour l'Église une mission impérative. Sa doctrine sociale est un aspect particulier de cette annonce. C'est un service rendu à la vérité qui libère. Ouverte à la vérité, quel que soit le savoir d'où elle provient, la doctrine sociale de l'Église est prête à l'accueillir. Elle rassemble dans l'unité les fragments où elle se trouve souvent disséminée et elle l'introduit dans le vécu toujours nouveau de la société des hommes et des peuples. Vous voyez, il y a comme tout un patrimoine de sagesse que l'Église d'ailleurs peut très bien emprunter à d'autres traditions philosophiques voire religieuses, selon le principe que tout ce qui est vrai est nôtre. Et à la lumière de la foi, éclairée par la foi, éclairée par ce que justement la révélation nous dit de l'homme, eh bien, va utiliser ces matériaux pour en faire comme une synthèse. Et après, pour l'introduire dans la vie. Mais pour cela, la vie du monde. Pour cela, évidemment, cela exige, et là c'est une des grandes, si je puis dire, des grands combats de Benoît XVI, cela exige que l'on renonce justement à ce qu'on appelle le relativisme. Le fait de dire, ben voilà, à chacun sa vérité, et puis... Le problème de ça, qui semble apparemment bienveillant et tolérant, aboutit en fait à un totalitarisme. C'est-à-dire que si on ne reconnaît pas des valeurs qui nous dépassent, eh bien ce sera immédiatement la loi du plus fort. Et ça, voilà, il y a dans l'homme, dans le cœur de l'homme, une loi à laquelle il est tenu d'obéir et qu'il ne s'est pas donné lui-même. Voilà. La vérité est le fondement de la liberté. Il n'y a pas de liberté en dehors de la vérité. Et ça, c'est vraiment la grande question, je dirais, aujourd'hui. Déjà, le pape Jean-Paul II était beaucoup revenu sur cette question-là, mais Benoît XVI en a fait vraiment, on peut dire, peut-être le grand combat de son pontificat. Alors, le Caritas in Veritate donc traite de la question du développement. Hein, et justement, c'est une question qui est anthropologique parce que l'homme n'est pas un sujet de dressage, il est un sujet d'éducation, il est un sujet de développement. Autrement dit, la liberté le rend capable, de prendre bien des directions différentes. Et donc, il faut lui montrer un chemin et le rendre capable de l'emprunter. Mais ce qui est vrai de l'homme, en tant que tel, est vrai aussi des peuples et de toute l'humanité. D'autant plus, et ça c'est quand même l'élément tout à fait nouveau, c'est que la mondialisation nous rend sensibles à l'indépendance et à l'interdépendance. C'est la fameuse théorie du vol de papillon, là. Benabar en a fait une chanson. Mais bon, on découvre, et la crise c'est vrai, aujourd'hui plus personne ne peut se retrancher derrière ses frontières. Si, peut-être à part la Corée du Nord, mais bon, là, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être en contact avec le monde entier pour affamer leur population, donc ils y arrivent très bien tout seuls. Mais par ailleurs, même la Chine, aujourd'hui, il y a une interdépendance très, très grande et très importante, et donc nous y sommes plutôt tout à fait sensibles, spécialement en tant que chrétiens. Mais il est évident aussi qu'il ne faut pas renier notre responsabilité personnelle. Parce que ça, c'est aussi le danger, c'est qu'il y a une sorte de fatalisme qui s'installe, qui dit, vous comprenez, moi, qu'est-ce que je suis dans cette grande machine? Donc voilà, je suis bien obligé de suivre. Alors, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais d'autre part, il y a eu bien des événements ou des changements dans l'histoire qui ont commencé parce qu'un tout petit groupe d'hommes, parfois un seul homme, un petit groupe d'hommes, justement, a dit non au système. Il a commencé à réfléchir, à dire, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je pense très directement, mais dans la chute du mur de Berlin, qui est un événement politique tellement important, le phénomène des dissidents en Union soviétique, qui a commencé dans les années 70, auquel on n'a absolument pas, enfin, dont on n'a pas parlé, mais pourtant c'est à ce moment-là qu'a commencé vraiment la première fissure du mur est apparue. Il y a un petit groupe d'hommes, de scientifiques ou d'universitaires, qui ont dit, nous on arrête de chrétiens, pas chrétiens, croyants, pas croyants, mais justement qui dit, nous on arrête de mentir. Maintenant on dit la vérité. On dit les choses telles qu'elles sont. Et c'était très, très bête, si je puis comme dit Charles Péguy, dire bêtement la vérité bête. Mais dans telle usine, on dit, la propagande dit qu'il y a telle production, c'est pas vrai, voilà la production. Et là, eux, ils ont fait l'expérience que c'était la vérité qui libère. Et que ce qu'il y a de pire, c'est justement de vivre toujours dans le mensonge. Ça, c'est quelque chose sur lequel insistait beaucoup le dissident dont j'ai oublié le nom, Sakharov, il disait le pire dans le système soviétique, c'est qu'on nous obligeait toujours à mentir. Alors, premier point de mon exposé, après cette très brève introduction, les 40 ans, donc 40 ans après Populorum Progressio, vérité, justice et charité. Plus de 40 ans, puisque en fait, Populorum Progressio, c'est une encyclique, je vous ai parlé de Rerum Novarum de Léon XIII, mais plus proche de nous, même si la plupart d'entre nous, certainement, enfin, tous nous n'étions pas nés, sauf le père Éric, mais en mars 67, donc le pape Paul VI a adressé une lettre encyclique à propos du progrès, disant même que le progrès, c'est le nouveau nom de la paix. Et le 30 décembre 87, donc là nous étions tous nés, le pape Jean-Paul II a renouvelé cette réflexion par son encyclique Sollicitudo Rei Socialis. Voilà. Alors, les contextes sont très différents. En 67, il y a la plupart des pays émergents, ou ce qu'on appelait en voie de développement, qu'on a appelé sous-développés, qu'on appelait à partir de cette période-là en voie de développement, tous ces pays-là, enfin, il y avait un certain optimisme, parce qu'on avait l'impression qu'ils s'étaient tous émancipés, la période de décolonisation était pratiquement entièrement terminée, et donc ces peuples et ces nations jouissant d'un pouvoir autonome, on pouvait espérer effectivement grâce entre autres à la coopération avec l'Europe plus développée, mais que ces pays allaient sortir de la misère et déjà bénéficier des progrès de la médecine, de l'industrialisation et que sais-je encore. En 87, donc 20 ans après, le contexte a bien changé. Hein, parce qu'il y a eu ce qu'on appelait le néocolonialisme. Il y a eu aussi, on a eu affaire à des régimes extrêmement corrompus qui faisaient que tout l'argent prévu pour le développement était allait souvent dans la poche des dirigeants. Et puis 87, c'est évidemment la période, même si le pape Jean-Paul II en a reparlé encore dans une autre encyclique, c'était Simus Annus, donc en 1991, mais évidemment on sent aussi qu'on est en train de sortir de la logique des deux blocs antagonistes. Donc c'est voilà. Et puis, alors le contexte de cette encyclique, donc Caritas in Veritate, c'est évidemment la crise systémique qui s'explique au moins en partie par le désordre du cœur humain. Là aussi, toujours revenir au fondement anthropologique. C'est très étonnant, mais si vous lisez un petit peu, je ne sais pas si entre vous sont des, ou des financiers ou des économistes, mais c'est quand même très très, très, très amusant d'entendre des experts aujourd'hui qui vous expliquent tous, au fond, que cette crise, c'était sûr qu'elle allait arriver, pour telle ou telle raison. À part un ou deux, ils ont été bien peu à vous le dire avant. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de... Et c'est pas méchant ce que je dis là, et on peut bien le comprendre, mais il y a une sorte d'excitation, on se laisse emporter, et puis, même si on dit, oui, mais c'est pas rationnel ce qui se passe, justement, c'est pas raisonnable, ça peut pas continuer comme ça. Et puis, un jour, tout s'écroule, on se dit, oui, en effet, ça pouvait pas continuer comme ça. Bon. Et de fait, ça n'a pas continué comme ça. Alors, quel est le point de départ ? Eh bien, justement, c'est une mise au point à propos des rapports entre vérité, justice et charité. Alors là, il y a quelques principes, ça peut vous paraître très... ça va peut-être vous rappeler vos classes de terminale en philosophie, mais la philosophie, ça consiste à aborder avec un esprit d'adulte des questions d'enfant. Et donc, la grande question, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce que la vérité ? C'est déjà la vérité de Ponce Pilate. C'est vrai qu'il demande à Jésus, quand Jésus dit « Je viens pour témoigner de la vérité », Ponce Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et à ce moment, il rentre chez lui, et voilà, ce qui permettait de dire à Frossard dans son commentaire du Credo, il croit retourner au bureau, il se retrouve au beau milieu du Credo, bon, souffert sous Ponce Pilate. Bon. Mais c'est ça, qu'est-ce que la vérité ? Ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence humaine est faite pour le vrai, c'est-à-dire pour connaître ce qui est. La vérité, ce n'est rien d'autre que découvrir, comprendre ce qui est, c'est-à-dire comment cela est, comment c'est fait. Et qu'est-ce que cela devient ? Autrement dit, la première question, c'est pas « mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que ça m'est utile ? Combien ça coûte ? » Ça, c'est des questions qui peuvent être légitimes, mais qui viennent après. Mais l'intelligence, dans son premier mouvement, dans sa recherche de vérité, elle est désintéressée. C'est qu'il y a, justement, dans l'homme, cette capacité à dépasser l'utile ou le... Alors, on le voit très bien, par exemple, dans l'activité artistique, mais pas simplement, c'est que notre intelligence, elle est faite pour être fécondée par la réalité, par la vérité. Autre notion à mettre en place, c'est la notion de justice. Alors, la notion de justice, la justice est une vertu morale, une capacité spirituelle que j'ai en moi, et que je développe en la pratiquant, justement, qui m'apprend à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et justement, c'est... Et il faut toujours s'interroger, mais qu'est-ce qui est dû à tel ou tel ? Vous voyez comme quoi le lien entre la vérité et la justice. Pour discerner, pour avoir un comportement juste à l'égard de quelqu'un, puisque c'est toujours la justice est une vertu altruiste qui me porte vers l'autre, eh bien je dois me dire, mais qu'est-ce que je lui dois ? Pas dans le sens, est-ce que j'ai des dettes envers lui, mais qu'est-ce que je lui dois ? Et c'est là où mon intelligence intervient. Parce que c'est mon intelligence qui me dit ce qu'il faut faire. Autrement dit, l'autre a des droits et moi j'ai des devoirs à son égard. Et donc tout homme a droit à développer son humanité, à découvrir qu'il est aimé de Dieu, parce que c'est ça le plus fondamental, à fonder une famille, à travailler pour assumer sa subsistance. Et donc, face à ces droits, il existe des devoirs corrélatifs de l'État, de la part de l'État et de la société pour lui offrir les moyens de réaliser tout ça. Un droit, ce n'est pas un truc auquel on peut renoncer. Un droit, c'est une exigence. Et enfin, la charité. La charité, c'est une vertu théologale, donc qui est en moi, mais qui ne vient pas de moi, qui vient de Dieu, ça n'est pas donné par la nature, par la création. Et cette vertu a l'effet de nous permettre d'aimer Dieu par-dessus toute chose et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout ça pris en classe de catéchisme, l'acte de charité. Dieu, je vous aime par-dessus toute chose et j'aime mon prochain comme moi-même. Autrement dit, si j'aime l'autre, je veux son bien. Donc on retrouve la notion de justice. C'est ce qu'on appelle l'amour de bienveillance. Parfois, je peux avoir aucune sympathie pour quelqu'un, j'ai la sympathie naturelle, mais ça, on s'en fiche complètement, c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de dire ben, quel est le bien de la personne. Et ce bien, je dois en justice le réaliser. Je dis ça parce qu'on se confie, enfin le pape le traite un peu plus loin, mais trop souvent, on se confie à ce que l'on ressent, au ressenti. Mais donc, on s'en fiche complètement de ça. Ça aide, c'est bien entendu. Mais, justement, l'ordre du réel, c'est pas l'ordre du ressenti. L'ordre du réel, c'est de se dire, ben, voilà, il y a telle personne qui m'est liée d'une façon ou d'une autre. Comment puis-je l'aider à réaliser sa vocation ? Et donc, découvrir comment justice peut lui être faite. Et c'est donc l'amour de Dieu, cette charité qui est créatrice, qui est créateur, pardon. C'est l'amour de Dieu qui nous révèle qui nous sommes, d'où son lien avec la vérité et la justice. Cependant, donc à la fois, la charité intègre la notion de la justice, mais elle la dépasse. Et ça, le pape y revient, dans un texte que nous verrons tout à l'heure ou cet après-midi, mais parce qu'elle introduit dans la cité des hommes la notion de gratuité, de miséricorde et de communion. Parce que si on n'est que dans une société de justice, on ne peut pas vivre uniquement avec des notions de droit et de devoir. Il y a aussi le domaine immense de la gratuité. Aussi de la miséricorde. La miséricorde, c'est renoncer. Marquant, on a ça aussi en droit, la notion d'équité. Mais la miséricorde ou l'équité, c'est de renoncer à un droit, justement parce que, ben voilà, on estime que, en toute justice, on pourrait exiger que, mais on préfère l'ordre de la miséricorde. Et du pardon, et donc de la communion. Et c'est une notion aussi sur laquelle le pape revient beaucoup, spécialement dans le numéro 6. Alors vous voyez qu'ici on retrouve donc le combat de Benoît XVI contre le relativisme, qui mine, on peut dire, nos sociétés libérales. C'est-à-dire que dans l'idéologie, on a une vérité dogmatique qui est imposée à tous. Dans les sociétés libérales, il n'y a plus aucune vérité. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est toujours la raison du plus fort, qui est la meilleure. Et il y a évidemment une déconnexion avec le réel. Et ça, on l'a vu, on est très inquiet de voir le développement des jeux vidéo et tout ça, parce qu'un des grands arguments, et c'est vrai en partie, c'est de dire que ça déconnecte complètement les enfants du réel. Mais vous ne croyez pas que comment on appelle ça, là, les jeunes gens, je crois que c'est surtout des jeunes gens qui jouent sur les cours de bourse, là. Les traders, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont un tout petit peu déconnectés de la réalité ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traders, j'espère. Mais il y a des gens qui étaient à Londres ces dernières années, qui sont revenus l'année dernière. Bon, c'est bon, il n'y a pas de traders. Mais ça, c'est le problème de la bourse, c'est que, c'est très bien, enfin, on a tous appris, que la bourse correspond à une richesse qui est créée. Or, avec le développement du système financier, on sait très bien qu'on peut avoir des hauts et des bas qui n'ont rien à voir. Vous voyez par exemple que le cours en bourse d'une société vaut moins que ses actifs. C'est quand même un peu bizarre comme situation. Ça veut donc dire qu'il y a un irrationnel qui peut se développer ou qui se développe. Autrement dit, qu'il n'y a plus aucun rapport avec la richesse effectivement créée. Et donc, tout au long de l'encyclique, le pape revient à plusieurs reprises sur les erreurs anthropologiques qui sous-tendent la crise. Donc il faut développer, ça c'était aussi une formule qu'employait le pape Paul VI, mais qui a été reprise par Benoît XVI, hein, il disait le développement, c'est qu'il faut développer tout l'homme et tous les hommes. Tout l'homme, c'est l'homme dans toutes ses dimensions, face justement à une société qui est très unidimensionnelle. Non, le vrai développement s'adresse à l'homme dans sa totalité, dans tout ce qu'il est. Ça veut donc dire, encore une fois, qu'il faut savoir ce qu'est l'homme. Et puis, tous les hommes, parce qu'évidemment, ils vivent en communauté, et qu'on ne peut pas, même si les rythmes de développement ne sont pas les mêmes, hein, on sait très bien que, de même que dans une société limitée, il y a un danger quand il y a de trop grosses disparités sociales, hein, il y a un risque d'explosion, eh bien, c'est exactement la même chose, il y a un risque d'explosion, mais cette fois mondiale, lorsqu'il y a une disparité trop grande entre peuple riche et peuple pauvre. D'où l'importance d'avoir une conception vraie de l'homme, hein, et d'où aussi la nécessité de se découvrir, et là encore une fois j'y reviendrai, non seulement tous solidaires, mais aussi des frères. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ça va jusque-là, vous tenez le coup, c'est des choses un petit peu, vous savez tous très bien, mais vous n'avez pas de questions ? Avant d'aborder le deuxième point. Alors nous abordons le deuxième point, donc le développement humain aujourd'hui. Alors là, vous voyez, donc on a posé les fondements anthropologiques, un peu les matériaux. Maintenant, à partir de ces principes-là, on va essayer de réfléchir à ce qu'est le développement et donc ce qu'est notre société aujourd'hui. Alors, l'organisation de l'économie suppose des sociétés, des entreprises et des industries. Et donc, le premier but de ces entreprises et de ces industries, à partir du moment où elles ont un caractère commercial, industriel, c'est de faire du profit. Mais cela n'est pas un but exclusif. Et sinon, on a la crise telle que nous la connaissons. C'est un des aspects du capitalisme financier, c'est de ne s'intéresser qu'à court terme, ça aussi c'est très important. Si vous êtes à court terme, vous ne pouvez pas avoir une vision de développement, hein, puisque vous êtes dans l'immédiateté. Et donc, à court terme, si j'ai I want my money back, comme disait Madame Thatcher à la grande époque, que vous n'avez pas connue, mais voilà, c'est comme ça qu'elle négociait dans les trucs européens. C'était très, voilà. Je veux que mon fric me revienne. Bon. Et le danger, c'est justement, ben voilà, on veut le maximum de rendement le plus vite possible, hein, sans du tout se préoccuper du type d'industrie dans lequel on a investi. Que ceci exige peut-être en effet du temps. Autrement dit, si c'est l'unique valeur qui est recherchée, c'est-à-dire le profit à court terme, eh bien évidemment, on scie la branche sur laquelle on est assis. Or, le bien de chaque industrie, hein, de chaque groupement économique, doit être compris aussi comme au service du bien commun. Au développement du bien commun. Et parce qu'à long terme, il est bien entendu que si vous sacrifiez toujours le bien commun, un jour ça va vous exploser à la figure. Parce que, au fond, même économiquement, ça sera une catastrophe. Parce que, par exemple, vous n'aurez plus de gens pour acheter vos produits. C'est le numéro 21 de l'encyclique qui insiste là-dessus. Et donc, qui voit dans la situation actuelle, enfin, la source de tous les maux dont nous souffrons, évidemment, la notion de spéculation injuste, ou plutôt cette situation-là, ne rechercher que le profit, qu'est-ce qu'elle provoque ? Eh bien, en effet, des spéculations injustes, que je dis déconnectées du réel, la ruine des économies locales. Vous voyez, par exemple, dans l'agriculture, au lieu de permettre à des États de parvenir à l'autonomie alimentaire en ayant une agriculture diversifiée, eh bien, on va pousser à produire avoir une production que ces pays puissent exporter et qui rapportera le maximum d'argent dans un premier temps. Donc la ruine des économies locales. Les flux migratoires difficilement maîtrisables. Et puis enfin l'exploitation anarchique des ressources de la terre. C'est au fond, on est dans le cadre du toujours plus matérialiste. Et ça, c'est profondément enraciné dans le cœur de l'homme. Là aussi, la racine de tout ça, c'est un problème anthropologique. Vous savez, c'est l'expérience aussi un peu du joueur. Il n'y a pas de Belge ici? Non? Il n'y a pas? Sûr. On sait, c'est le Belge qui est devant le distributeur de Coca-Cola, vous savez. Il met une pièce, il y a un Coca-Cola qui tombe, il en met une deuxième pièce, il met une troisième pièce, puis un type qui s'approche, il dit, non, mais vous avez très soif. Ah non, non, mais moi, tant que je gagne, je joue, hein. Bon, et ben, il y a un peu ce phénomène-là, hein, un phénomène qui est au fond très, très immature, hein, et qui fait que, ben voilà, tant qu'on peut ramasser du profit, alors qu'on est en train justement de tuer en quelque sorte la poule aux œufs d'or. Autrement dit, même si la richesse générale croît, hein, il y a l'apparition de disparités de plus en plus fortes et criantes. Hein. Et donc là, la disparité, ça va évidemment contre la notion de justice, la vertu de justice. Hein, c'est exactement ce que disait c'est un bouquin de Gilbert Sesbon qui s'appelle « C'est Mozart qu'on assassine », mais en fait il reprend une formule ou une expression de Saint-Exupéry, hein, où Saint-Exupéry disait « Mais quand on ne donne pas à des enfants les moyens de se développer, hein, je dirais justement spirituellement, humainement, eh bien peut-être que c'est Mozart qu'on assassine, parce que dans les enfants à qui on ne donne pas les moyens de se développer, il y a sans doute même le futur Mozart. Hein, mais Mozart, tout génial qu'il soit, s'il n'y avait pas eu son père, s'il n'y avait pas eu un contexte familial et social qui justement le poussait parfois un peu trop, mais à exprimer ou à manifester son art, eh bien, voilà, nous n'aurions jamais eu Mozart. Hein. Eh bien, cela s'applique très bien au développement. Hein. Le développement permettra à tout homme d'offrir à tout homme les conditions de se développer humainement, c'est un service qui est rendu à toute l'humanité. Donc les États semblent de plus en plus impuissants dans leur fonction de régulation, justement du fait de la mondialisation, avec la disparition des blocs aussi. Ça c'était aussi une chose, c'est qu'on était obligé de bien se tenir, c'est-à-dire d'essayer de favoriser le développement des nations sur qui on avait autorité, parce qu'on craignait beaucoup que justement ces nations se tournent vers l'autre bloc. Or, maintenant, ces blocs ont disparu. On est dans un monde de plus en plus, non plus bilatéral, mais multilatéral. Et puis, il y a aussi, évidemment, les phénomènes de l'ouverture économique de pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Brésil. D'où aussi le risque d'un affaiblissement de la protection sociale, qui inquiète beaucoup nos contemporains, spécialement nos compatriotes. Voilà aussi pourquoi l'Église encourage le regroupement des travailleurs en syndicats pour défendre leurs droits, c'est le numéro 25, mais j'en reparlerai parce que justement le pape en reparle à un autre endroit. Et puis enfin, il y a aussi le risque d'un nivellement culturel selon un seul modèle. Et ça, c'est évident que la télévision joue un rôle considérable en cette matière. Tout cela parce qu'on a perdu le sens de l'homme et de la vérité. Donc l'homme... Conclusion de cette sous-partie, mais l'homme a besoin de se découvrir comme solidaire des autres hommes, mais aussi comme frère. C'est le deuxième texte que je vous ai mis. Cette fraternité, les hommes pourront-ils jamais la réaliser par eux seuls? On peut dire qu'il y a un grand désir de l'homme de se sentir frère, mais... La société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. La raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Celle-ci naît d'une vocation transcendante de Dieu Père, qui nous a aimés en premier, nous enseignant par l'intermédiaire du Fils ce qu'est la charité fraternelle. Dans sa présentation des différents niveaux de processus de développement de l'homme, Paul VI, après avoir mentionné la foi, mettait au sommet l'unité dans la charité du Christ, qui nous appelle tous à participer en Fils, à la vie du Dieu vivant, Père de tous les hommes. Hein, donc, ce qui nous fait frères, c'est le fait de découvrir que nous sommes les enfants d'un même Père et que nous avons la même finalité, nous avons la même origine, Dieu, hein, qui nous a créés, et nous avons la même finalité, à savoir Dieu encore, qui nous appelle à partager sa propre vie. Et c'est ça qui fonde véritablement la fraternité. Alors, face à cette situation de désordre, l'Église affirme que le marché doit obéir non seulement aux lois de ce qu'on appelle la justice commutative, entre les membres d'une même société. La justice commutative, c'est le fait qu'entre égaux, nous puissions nous respecter. Par exemple, si je passe un contrat avec vous, eh bien, je suis tenu de le respecter. Et vous aussi, vous êtes tenu de le respecter pour la partie qui vous revient. Mais il y a aussi une autre forme de justice qu'on appelle la justice distributive, qui s'exerce pour le coup par l'autorité politique sur les citoyens. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il revient à l'État d'avoir le sens du bien commun. Et que nous, et c'est bien normal, c'est bien normal. Une entreprise locale, elle verra son intérêt propre d'abord. Mais la somme des intérêts propres, ça ne fait pas un intérêt commun. Voilà pourquoi, parfois, l'État, lorsqu'il est juste, lorsqu'il est impartial, se doit justement d'intervenir pour rappeler à telle ou telle entreprise, pris dans le sens très large, mais réalité dans la société, qui poursuit son propre but, que peut-être que son but ne correspond pas au bien commun. Mais là, évidemment, l'exigence, c'est l'impartialité de l'État. L'économie est donc une activité sociale qui s'insère dans une communauté humaine. Et elle n'est pas indépendante par rapport à elle. C'est ce que le pape rappelle au numéro 35. Sans forme interne de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd'hui, c'est cette confiance qui fait défaut, et la perte de confiance est une perte grave. Il y a donc trois termes à respecter, ou trois réalités à coordonner pour le bien de tous, à savoir le marché, l'État et la société civile. Voilà pourquoi, je terminerai avec ça pour ce matin, le pape encourage l'émergence à côté des entreprises privées qui poursuivent un but purement commercial ou économique, et à côté aussi des entreprises publiques qui ont une fonction de régulation et d'organisation des fonctions régaliennes de l'État, même si ça peut modifier. Durant tout un temps, on a considéré que, par exemple, l'énergie, ça devait être le monopole de l'État, parce qu'il était lui-même à même de fixer les prix et les coûts. Et voilà, vous savez que le système énergétique s'est ouvert à la concurrence et à la privatisation. Bon, ça, c'est après des choix politiques, et l'Église n'entre pas dans ce... Mais ce qu'elle exige, enfin, ce que l'Église demande, c'est justement l'impartialité de l'État dans les fonctions qu'il se reconnaît. Et donc, c'est lui qui est appelé à réguler, on l'a bien vu dans la crise bancaire, c'est lui qui est appelé à réguler les différents systèmes économiques. Donc, il existe à côté de ces différentes entreprises, donc soit entreprises d'État, soit entreprises privées tournées vers le profit, donc au numéro 38, des organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux. Autrement dit, c'est le moyen de dépasser la logique purement libérale, donnée pour avoir, et ou la logique étatique, donnée par devoir. Pour permettre des échanges reposant sur la gratuité et le développement intégral. Voilà. C'est ce qui est apparu sous la forme de ce qu'on a appelé l'économie de communion. L'économie de communion a sa cohérence propre, elle doit aussi gagner de l'argent, mais ce n'est pas cela qui est premier. Autrement dit, cela permet de redécouvrir que l'entreprise est aussi une réalité sociale, c'est-à-dire qu'elle existe pour le bien de ses membres, et qu'elle n'appartient pas qu'aux investisseurs. Drame de la crise, c'est que les industries, les entreprises n'obéissaient qu'aux injonctions des investisseurs financiers. Autrement dit, ce nouveau secteur permet de mieux comprendre la finalité profonde de l'économie comme activité humaine. Non pas seulement le profit, mais le développement de l'homme dans toutes ses dimensions. Et c'est le texte numéro 4, on va terminer avec... Une économie de communion et de solidarité, je le dis avec vous. Je reviendrai après sur le texte numéro 3. Considérant les thématiques relatives au rapport entre entreprise et éthique, ainsi que l'évolution que le système de production connaît actuellement, il semble que la distinction faite ici, jusqu'ici, entre entreprise à but lucratif, profit, et organisation à but non lucratif, non profit, je pense que c'est ça doit être en anglais, ne soit plus en mesure de rendre pleinement compte de la réalité ni d'orienter efficacement l'avenir. Au cours de ces dernières décennies, une ample sphère intermédiaire entre ces deux types d'entreprises a surgi. Elle est constituée d'entreprises traditionnelles, qui cependant souscrivent des pactes d'aide aux pays plus sous-développés, de fondations, qui sont l'expression d'entreprises individuelles, de groupes d'entreprises ayant des buts d'utilité sociale, du monde varié des acteurs de l'économie dite civile et de communion. Il ne s'agit pas seulement d'un troisième secteur, mais d'une nouvelle réalité vaste et complexe qui touche le privé et le public et qui n'exclut pas le profit, mais le considère comme un instrument pour réaliser les objectifs humains et sociaux. Le fait que ces entreprises prévues par les normes juridiques deviennent secondaires par rapport distribuent ou non leurs bénéfices, ou bien qu'elles prennent l'une ou l'autre des formes prévues par les normes juridiques, devient secondaire par rapport à leur orientation à concevoir le profit comme un moyen pour parvenir à des objectifs d'humanisation du marché et de la société. Il est souhaitable que ces nouveaux types d'entreprises trouvent également, dans tous les pays, un cadre juridique et fiscal convenable. Sans rien ôter à l'importance et à l'utilité économique et sociale des formes traditionnelles d'entreprise, elles font évoluer le système vers une plus claire et complète acceptation de leurs devoirs de la part des agents économiques. Bien plus, la pluralité même des formes institutionnelles de l'entreprise crée un marché plus civique et en même temps plus compétitif. Cet après-midi, nous reviendrons sur cette notion d'économie solidaire de communion.